Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, un roman familial extravagant.
Bonsoir, merci d'être là pour ce nouveau cours consacré à Freud. Vous vous souvenez donc qu'on avait démarré l'aventure en allant voir quel était son rapport à la philosophie, aux philosophes, à deux philosophes en particulier, Nietzsche et Schopenhauer. On aurait pu ajouter von Hartmann, par exemple, un très gros livre sur la philosophie de l'inconscient. On aurait pu vraiment passer l'année à voir ce qu'ont été les sources de Freud, les sources philosophiques de Freud, les sources aussi scientifiques. Enfin, ça, je ne suis pas compétent pour ça, mais on avait démarré sur cette aventure, continué sur l'aventure autobiographique, et nous partions dans cette histoire pour vous tâcher de montrer que Nietzsche avait raison et que toute philosophie est une confession autobiographique. Et la dernière séance avait été l'occasion de parler du père. Cette séance va être consacrée à la mère. Et on tâchera de voir comment ces deux choses-là s'articulent pour produire nombre de concepts de Freud, nombre de concepts freudiens, nombre de concepts de la psychanalyse qui sont devenus courants et communs. Je voudrais placer cette séance sous le signe du roman familial. Et du roman familial extravagant, le roman familial est un concept de Freud. Il y a un véritable imbroglio familial dans la vie de Freud. Et on comprend que ça a pu être compliqué pour un petit garçon de vivre dans un milieu comme celui-ci. Suivez bien, accrochez-vous, parce que moi qui ne suis pas très doué pour les histoires de généalogie, de famille, vous allez voir des tontons, des parrains, vous allez voir des oncles, des neveux, des cousins, des frères qui ont l'âge d'être des maris qui ont l'âge d'être des grands-pères, enfin toutes choses un peu complexes, et qui peuvent effectivement embrouiller l'esprit d'un petit garçon, fut-il Freud. Jacob s'est donc trouvé marié à l'âge de 16 ans, il est devenu père à 17, alors Jacob c'est le père de Freud. Premier mariage, 16 ans, père l'année suivante à 17 ans, et veuf à 33 ans. Il y a donc deux enfants dans une première noce, c'est donc premier paquet avec lequel il faut compter. Ça jouera un rôle extrêmement important dans la pensée de Freud, cette aventure. Il est marié une deuxième fois du moins, avec Rebecca. On ne sait rien d'autre de cette femme, au point qu'on a même pu penser que le mariage n'avait pas eu lieu. Les traces ont été totalement effacées, mais enfin on sait qu'après le veuvage, il y a eu un deuxième mariage. Et puis il y aura, donc disparition de cette femme, un troisième mariage. Et là, pour le coup, nous arrivons à Amalia, qui est la mère de Freud, et qui est beaucoup plus jeune que Jacob. La différence d'âge est importante. Jacob a 41 ans, Amalia 21, et Freud naît, lui, le 6 mai 1858. 6, oui. J'ai du mal avec la naissance de notre ami. Arrive un petit frère, l'année suivante, en 57, qui meurt 7 mois plus tard. Et on verra que ça joue un rôle dans la question de la rivalité, dans la généalogie de la rivalité chez lui. Une petite sœur l'année suivante, 1858, elle se prénomme Anna. Souvenez-vous de ce prénom, c'est important, puisqu'il donnera un petit peu plus tard ce prénom-là à sa propre fille. Anna, on n'a jamais vraiment trop su pourquoi elle s'appelait Anna. Les autres, on sait bien, ça renvoie à Charcot, ça renvoie à Breuer, ça renvoie explicitement à des individus que Freud aura nommés. Pour Anna, c'est plus problématique. Donc il aura, dans toute la complexité de ces choses-là, il faut retenir, il aura 8 enfants en 3 mariages. Confusion chronologique, une famille composée, mais 3 générations, disait donc le demi-frère de Freud. Je savais que j'aurais du mal avec les histoires de famille. Alors, j'avais pris des notes. Donc Jacob, le père, aurait pu être le grand-père de Sigmund, il était son père. Philippe, qui est le demi-frère, aurait pu être l'amant d'Amalia. On verra que ça joue un rôle extrêmement important, c'est-à-dire la mère de Freud. En fait, il était son beau-fils. Il y avait un an d'écart entre son beau-fils et elle-même. Jacob, donc le fameux père de Freud, aurait pu être le père d'Amalia. En fait, il était son mari. Vous suivez ? Le premier fils de Jacob aurait pu être le contemporain de Freud. En fait, il était son oncle. Et il y a un deuxième enfant. Non, j'ai dit une bêtise, là ? Je crois que je vais sauter la page sur la question des généalogies, parce que On va aller très vite là-dessus, puis on va arriver à la question des rêves. Toujours est-il qu'il y a Emmanuel, qui est un premier fils du premier mariage. Vous poussez des cris si je dis des bêtises, hein, mais vous, je parle sous votre contrôle désormais. Il était marié, lui, il avait donc deux enfants, dont un était plus vieux que Freud d'un an. La question, parce que c'est ça finalement le problème, il s'agit de voir comment arrive le problème du complexe d'Édipe, pourquoi il y a un jour complexe d'Édipe, comment ça se passe dans la tête de Freud. De qui Amalia est-elle donc ? Amalia, la mère de Freud, la mère, l'épouse, la sœur, la femme, la compagne, la maîtresse. Cocher la case correspondante. La question que Freud pose, en gros, hein, c'est avec qui couche-t-elle ? Puisque c'est vraiment le sujet, c'est vraiment la question. On oublie toutes les bêtises que j'ai pu dire. Retenez que dans cet imbroglio familial, c'est une jeune fille qui épouse un vieux monsieur qui a déjà des enfants, et le petit Freud qui arrive au monde et voit apparaître de nouveaux enfants se demande si son demi-frère n'est pas le père de l'enfant que sa mère porte. Pour ça, je suis sûr que c'est vrai, si je ne me suis pas trompé. Donc, l'inquiétude, elle est là. L'inquiétude, elle est, sa jeune mère est enceinte. De qui est-elle enceinte ? Sûrement pas de ce vieux monsieur qui est son propre père. Donc, évidemment, avec toute cette complexité-là, il est légitime d'avoir des troubles identitaires quand on est ce petit garçon perdu dans cette famille compliquée où les trois générations se mélangent. Je vous disais comment, la dernière fois, il avait parlé de son père, de quelle manière il était dans une logique de rivalité. La question de la mère est plus complexe parce qu'on est dans une espèce d'ambivalence, encore que l'ambiguïté s'y retrouve aussi. On a deux rêves, on parle très peu de sa mère, mais deux rêves dans lesquels il est franchement question de sa mère et il donne des interprétations, Freud, qui sont des interprétations fautives, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il parle par exemple d'un premier rêve qui est connu dans l'histoire de la psychanalyse comme le rêve intitulé « Mère bien-aimée et personnage à bec d'oiseau ». Il a 6-8 ans, nous dit-il, et il nous explique comment il a fait un rêve d'angoisse. Et il s'agit de faire l'analyse d'un rêve d'angoisse. C'est comme ça que la chose a été présentée par Freud, et pas d'un rêve sexuel. Pourtant, on va voir qu'il s'agit véritablement d'un rêve sexuel. Sa mère est portée, nous dit-il, enfin, c'est un rêve dans lequel il voit sa mère portée par des créatures à bec d'oiseau. Il voit le visage de sa mère qui semble serein, nous dit-il. Il nous dit « Elle avait le visage de mon grand-père agonisant ». On ne peut pas imaginer qu'un grand-père agonisant puisse avoir un visage serein. Il parle également d'un Philippe, qui est un petit garçon avec lequel il aurait joué dans le pré qui était en face de chez ses parents. Et le petit garçon lui aurait appris un certain nombre de choses concernant la sexualité, notamment des glissements sémantiques. Et on verra que les jeux de mots sont extrêmement importants chez Freud. Lacan en fera d'ailleurs son fonds de commerce. Le jeu de mots serait l'occasion d'accéder directement à l'inconscient. Il y a un glissement sémantique entre « Vögeln », les oiseaux, et « Vögeln », baiser, c'est-à-dire faire l'amour vulgairement. Donc évidemment, quand il y a un rêve d'oiseau, eh bien Freud nous dit qu'il y a cette sexualité qui renvoie à Philippe qui était, nous dit-il, le petit garçon avec lequel il jouait dans la campagne. Et il met en perspective ce fameux Philippe, Philipson, avec la Bible hébraïque qui lui a été offerte par son propre père, avec une dédicace. On verra quelle était sa relation à l'hébreu. Il a appris l'hébreu, mais il disait ne pas pouvoir déchiffrer la dédicace. Et il nous dit, Philipson, c'était le personnage qui avait fabriqué cette Bible illustrée, dans laquelle on trouvait notamment des illustrations d'un bas-relief, issu d'un bas-relief ou extrait d'un bas-relief égyptien. En fait, si on n'est pas dans la logique du rêve d'angoisse, Freud nous dit « je fais ce rêve, je suis en train de pousser des cris, ma mère arrive, elle me prend dans ses bras et elle m'apaise » et donc c'était donc bien un rêve d'angoisse. Si on va un petit peu plus loin, on considère effectivement que le personnage à bec d'oiseau, ça renvoie, c'est presque une question de cours, à Horus, qui est le fils d'Osiris le père et d'Isis la mère, lui le savait. Je veux dire, Freud était quelqu'un qui était très au courant des mythologies grecque, romaine et égyptienne, il connaissait Assur, Sumer, Babylone, il connaissait tous ces récits légendaires, donc lui le savait, il n'en parle pas. Il se fait que Horus venge la mort de son père en affrontant son oncle, et il reçoit de ce fait, du simple fait qu'il ait affronté son oncle, vous vous souvenez un petit peu de l'imbroglio, hein, et il reçoit le trône d'Égypte, d'où son surnom, vengeur de son père. Donc, vous voyez comment ce qui arrive dans le rêve de Freud n'est pas autant un rêve d'angoisse que, qu'un rêve de sexuel, clairement sexuel. Parce que si on rentre dans la logique de ce que sont les équivalences chez Freud, données par Freud lui-même, hein, puisque je vous dis que l'on fait une analyse freudienne de Freud, puisque les termes de la psychanalyse sont faits sur mesure pour comprendre la psyché de Freud, il nous dit, lui, systématiquement, c'est un petit peu l'aspect simpliste, voire simplé de l'interprétation du rêve, vous avez des espèces de clés où on vous dit, vous rêvez ceci, ça veut dire cela, clé, phallus, serrure, vagin. Vous avez un parapluie, phallus, etc., enfin, une cravate, il y a une série d'équivalences comme ça. Et dans la série d'équivalences, vous avez le vol d'oiseau, l'oiseau et l'acte sexuel. Ouais, demandez pas pourquoi, mais Freud pose effectivement qu'il nous dit que c'est la clinique, que c'est l'observation, que c'est l'écoute, et qu'il a réussi à conclure ce genre de choses, mais souvent c'est une pure et simple proposition qui relève de ce que les linguistes appellent le performatif. Freud dit que, donc c'est. Freud nous dit donc, à chaque fois qu'on rêve d'un oiseau, d'un vol d'oiseau, on effectue un rêve sexuel. Philipson, évidemment, ça peut renvoyer à la Bible illustrée, mais ça peut aussi renvoyer, à l'évidence, au fameux Philippe qui est le demi-frère de Freud, celui dont Freud se dit qu'il est probablement le père de l'enfant que sa mère porte, en l'occurrence Julius, puis Anna un petit peu plus tard. Le visage de la mère, quand il nous dit qu'effectivement c'est un visage de sérénité, parce que ça renvoie à l'agonie de son grand-père, eh bien on peut effectivement imaginer que ça renvoie plutôt à la satisfaction d'après l'acte sexuel et que ça n'a pas grand-chose à voir avec le visage d'un mourant. Ça, c'est un premier rêve qui nous donne l'impression que quand il va développer un petit peu plus tard Freud ce qu'il appelle les écrans, les souvenirs écrans, c'est-à-dire vous donnez un souvenir, mais finalement ce que vous proposez comme souvenir est fait pour cacher un second souvenir qui lui est bien plus important, eh bien on a là l'exemple du fonctionnement d'un souvenir écran dans un rêve de Freud qui ne veut pas voir un rêve incestueux avec sa mère et qui veut voir en revanche un rêve d'angoisse qui aurait été apaisé par le simple fait que sa mère serait venue et que, entendant ses pleurs, elle l'aurait calmé. Il y a un second rêve dont il nous dit qu'il le fait quand il a 3 ans, et c'est le moment où sa mère est absente de la maison parce qu'elle est partie à la maternité pour accoucher, donc la mère est absente. Et Freud est inquiet, il fait un rêve dans lequel il se demande où est sa mère, un rêve d'angoisse où il se dit « mais où est-elle partie? Où est-elle passée ?» Il pose la question au fameux Philippe, le fameux demi-frère qui a un an près l'âge de sa propre mère, et il associe dans son rêve, cette mère absente, un coffre et une nourrice. Le coffre, il nous le dit, c'est toujours dans la logique de ses équivalences, on trouve ça dans l'interprétation du rêve, hein, il nous dit « boîte en fer, boîte en carton, coffre, armoire, poêle correspondent au corps féminin. » C'est ainsi. Il se demande, sa mère est toujours vivante quand il fait ce rêve, il se demande pourquoi il associe ce rêve, ce coffre et sa nourrice. Une nourrice qui a été mise à la porte et à cette occasion. Et il découvre qu'elle a été mise à la porte parce qu'elle avait volé et qu'on avait découvert qu'elle avait volé dans le moment où elle était partie à la maternité. Et Freud, le petit Freud, se demandait si sa mère n'était pas dans le coffre. Et il s'est mis à parler de la nourrice parce que la nourrice avait été coffrée. Donc le coffre, coffret, l'assimilation, etc., on verra comment la méthode freudienne fonctionne toujours sur ce terrain-là. Une chose n'est jamais ce qu'elle est, elle est toujours autre chose. Elle est toujours la projection de ce que Freud voudra, c'est-à-dire un coffre n'est jamais un coffre, mais il est immanquablement le ventre de la mère, et on est dans la logique du symbolisme. Et Freud nous dit à ce moment-là qu'il a découvert effectivement que quand il a posé la question à Philippe, à son demi-frère, sur l'absence de sa mère et sur l'idée qu'elle aurait pu être dans le coffre, c'est que finalement, si la nounou avait été coffrée, c'est lui qui mettait dans le coffre Philippe, et que donc c'est lui qui probablement était le géniteur de cet enfant que sa propre mère portait. Suivez jusqu'ici, vous avez vu un petit peu le... C'est Freud, hein, c'est pas moi. Si c'est complexe, je vous assure, c'est le rêve, et c'est l'interprétation qu'en propose Freud, qui lui permet de déboucher sur un concept, qui est le fameux concept du roman familial. L'analyse du roman familial se fait dans un petit texte qui s'appelle « Le roman familial des névrosés », un petit texte qui date de 1909. Freud est quelqu'un qui, je vous l'ai déjà dit, n'écrit pas forcément des très gros livres didactiques et théoriques, mais qui fait des petits textes d'intervention, des petits chapitres. Et puis, enfin, ce sont presque de petits chapitres qui, pour le coup, donnent parfois des livres, puisqu'ils sont associés et donnent tel ou tel ouvrage. Donc il faut aller chercher dans l'œuvre complète tous ces petits textes pour voir comment ils interviennent de manière autobiographique. L'interprétation du rêve nous le dit très précisément. Freud nous dit qu'il est dans une logique autobiographique, que c'est le décès de son père qui est à l'occasion, à l'origine de ce désir d'auto-analyse qui lui-même va générer, nous dit-il, et on verra que c'est une légende, mais va générer la découverte du complexe d'Œdipe. Donc il nous dit, voilà, il est dans la science, mais il est dans l'autobiographie. Il est dans l'introspection, mais il est dans la science. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'écoute, se regarde, effectue un travail de réflexion sur lui, il propose une découverte dont il nous dit qu'elle est scientifique et qu'elle est universelle. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la correspondance avec Fliess est l'occasion de voir comment l'œuvre se fait, comment elle se constitue. Vous voyez une idée apparaître dans une lettre, vous la voyez testée auprès de Fliess. Malheureusement, on n'a pas les réponses, puisque Freud les a détruites. On ne sait pas ce que Fliess lui dit. De temps en temps, on peut imaginer que, répondant à telle lettre, la lettre de Fliess disait ceci ou disait cela. Pour le coup, sur la question du roman familial, il y a une lettre qui date du 20 juin 1898, dans laquelle il dit « Tous les névrosés se forgent ce qu'on appelle roman familial, qui est, d'une part, au service du besoin de grandeur, d'autre part, au service de la défense de l'inceste. » Donc ça, c'est devenu une espèce de vérité. Chacun recrée sa famille en fonction de ses désirs. Quand Nietzsche disait « Quand on n'a pas un bon père, il faut s'en faire un », d'une certaine manière, il y avait quelque chose comme la généalogie du roman familial dans cette aventure. Et Freud, qui peut se perdre légitimement dans le dédale de cette propre famille, va se recréer une famille, va s'inventer une famille. Il a un vieux père, il va s'inventer un père jeune. Jacob a 41 ans, Amalia 21, Philippe a pratiquement l'âge d'Amalia. Il va donc s'inventer un père qui sera ce Philippe, qui n'y est évidemment pour rien. Il y a toujours aujourd'hui des biographes qui prennent le fantasme freudien pour la réalité et qui pensent qu'assez probablement Amalia a fauté avec son propre beau-fils et qu'elle a eu cet enfant, Anna, avec Philippe. Ce qui ne semble pas le cas, on est franchement dans le fantasme freudien dans cette aventure. Freud nous dit « L'enfant a tendance à se sentir mis à l'écart par ses parents. » Ça arrive quand vous avez un parent âgé ou un père âgé, par exemple, un grand écart d'âge entre père et mère. Ça arrive également, nous dit-il, quand vous avez un petit frère qui arrive ou une petite sœur qui arrive. Les parents ne répondent pas à tous nos souhaits. Cette affection qu'ils nous donnaient de manière exclusive, ils ne la donnent plus de manière exclusive, puisqu'il faut s'occuper du petit frère ou de la petite sœur. Et le premier moment du roman familial consiste à dire que les parents ne sont pas les géniteurs. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, faire des enfants, coucher l'un avec l'autre, ce que sont les mécanismes de la reproduction, quel est le rôle du père ou quel est le rôle de la mère. C'est un peu confus dans un premier temps. Toujours est-il qu'on invente d'autres parents et qui sont plus beaux, plus jeunes, plus riches ou plus célèbres. Et de fait, quand arrive Julius, ce petit frère, 1857, Anna, petite sœur, 1858, Freud a un an, puis deux ans, c'est-à-dire qu'il voit apparaître ses enfants comme des menaces qui seraient susceptibles de lui supprimer l'affection que sa mère pourrait lui donner. Dans la logique du roman familial, il y a un moment où on peut comprendre qu'effectivement, les parents jouent un rôle particulier. On connaît le rôle du père, on connaît le rôle de la mère. Dès lors, on est sûr de la mère. On sait que la mère est la mère puisqu'elle a 9 mois pour en faire la démonstration, alors qu'on n'est jamais très sûr du père qui peut ne jamais être le père sans qu'on le sache véritablement. Donc, quand on commence à comprendre ces choses-là et qu'on est sûr de la mère, il y a un second temps, nous dit Freud, dans le roman familial. Et ce second temps consiste à mettre la mère, alors c'est une citation, dans la situation d'être secrètement infidèle, d'avoir des liaisons amoureuses secrètes. Freud nous dit, mais c'est une infidélité qui n'est qu'apparente, parce qu'au bout du compte, le parent qu'on imagine autre, enfin celui qu'on imagine autre, il a toujours des traits qui sont issus d'un parent que nous connaissons déjà. C'est-à-dire qu'il y aura des espèces de transferts qui s'effectueraient. Il n'est pas très clair sur ce sujet, Freud, mais il nous dit effectivement que le parent de remplacement a toujours les traits d'un parent véritable. Vous voyez comment cette histoire du roman familial qui fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que quand Freud théorise le roman familial, il ne dit pas que ça lui permet de se comprendre. Il nous dit que ça permet de comprendre l'humanité dans sa totalité. On voit bien poindre ici la méthode de Freud, et vous verrez comment ça fonctionne sur le restant des séances. Freud est toujours dans cette logique. On est dans le postulat, ce que j'ai déjà dit, Austin appelle le performatif. Freud dit, s'il dit, c'est vrai, et si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, il y a des échanges avec Fliss où il dit j'ai constaté ceci, et toi, qu'en penses-tu? Et on sait par les réponses, le commentaire reçu par Freud, que Fliss va dans ce sens-là aussi. Et à partir de leur espèce de soutien mutuel, Freud théorise et universalise. Il considère que, finalement, à partir du cas particulier, il peut extrapoler l'universel. Rappelons que c'est ce qu'il refuse au philosophe, ou reproche au philosophe. Il nous dit, il y a peut-être de l'introspection, mais l'introspection, ça n'est jamais qu'un matériel court. C'est le matériel de la subjectivité. Quand Montaigne écrit les essais, il est dans le journal de sa propre conscience. Sa conscience, ça n'est pas la conscience universelle. Et pourtant, Freud fait de même, il explore sa conscience. Il est dans une logique d'introspection philosophique, mais il ne s'interdit pas de passer du particulier à l'universel. Et le roman familial, qui peut être un concept évidemment très opératoire pour Freud, devient un concept universalisable et universalisé. Autre notion qui devient une notion générale, généralisée, généralisable, la notion de fils préféré. La théorie du fils préféré. On trouve ça dans un petit texte dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, Un souvenir d'enfance de poésie et vérité, un texte qui date de 1917, dans lequel on peut lire cette phrase de Freud, hein, ouvrez les guillemets, « Quand on a été le favori incontestable de la mère, on garde pour la vie ce sentiment d'être un conquérant, cette assurance du succès qui manque rarement d'entraîner effectivement le succès auprès de soi. » C'est une thèse qui fonctionne pour Freud, à l'évidence. De là à ce qu'elle fonctionne pour tout le monde, ça ne me paraît pas forcément une évidence et ça mérite encore d'être prouvé. Freud a été le fils préféré, ça c'est clair. Et on verra comment l'amour de sa mère a été quelque chose d'envahissant, d'encombrant, qui l'a peut-être aidé à être le conquérant. C'est important de voir le mot, hein. Je vous ai dit la citation, on garde pour la vie ce sentiment d'être un conquérant. Et conquérant, c'est le mot qu'il utilise quand il nous dit qu'il est un découvreur de continents. Dans des lettres, ce qu'il revendique, c'est le statut de conquérant, conquistador, nous dit-il très précisément. Et il nous dit là que l'enfant qui a été spécialement aimé par sa mère dans son enfance, ça devient un conquérant qui n'a peur de rien le restant de son existence. Toujours dans l'interprétation du rêve, hein, livre à prétention scientifique, mais avec nombre de renvois ou de références biographiques ou autobiographiques. Il nous dit qu'il est né coiffé. Qu'est-ce que naître coiffé? C'est, quand on arrive au monde, avoir des cheveux abondants, une chevelure noire et abondante. Dans l'interprétation du rêve, il écrit « Une vieille paysanne avait prophétisé à la mère heureuse de son premier-né qu'elle avait fait cadeau au monde d'un grand homme. » Et quelques lignes plus loin, Freud écrit « Mon désir de grandeur proviendrait-il de cette source ?» Il y a un point d'interrogation, hein, mais je vous laisse répondre vous-même. Deuxième oracle, et c'est toujours Freud qui nous les donne, il nous dit, là, 11 ans, 12 ans, il est dans un café du Prater, à Vienne donc, hein, et un saltimbanque va de table en table et pour quelques pièces trousse un petit compliment. Et dans le compliment adressé aux parents de Freud, il annonce que le petit garçon pourrait être ministre. Et Freud écrit, toujours citation, hein, « Je puis encore fort bien me souvenir de l'impression que fit cette seconde prophétie. Un temps, Freud envisage de faire du droit. » On sait qu'il n'ira pas au-delà de ce désir-là. Et puis dans un rêve d'adulte, on n'a pas le temps de l'analyser, mais Freud apparaît en ministre. Il nous dit que des années après, cette idée le poursuit toujours. Il y a des signes d'élection évidents qui montrent un Freud fils préféré de sa mère. Quand la famille quitte Freiberg pour aller à Vienne, il s'installe dans un appartement qui comporte 3 chambres et un bureau. La famille est donc, souvenez-vous, 8 personnes. Eh bien, la mère attribue d'autorité le bureau à Freud. C'est-à-dire le petit garçon a à sa petite chambre privée, le bureau. Les 7 autres se partagent les 3 chambres. Il y a 3 dans l'une, 2 dans l'autre et les parents dans la troisième. Seul à disposer d'un espace privatif. Un petit peu plus tard, autre signe qui montre que Freud est le petit chouchou, le préféré. Sa sœur apprend le piano quand elle a 8 ans et Freud qui lit beaucoup considère que ça le gêne et immédiatement les études de la petite fille sont stoppées et le piano est interdit dans la maison. On verra plus tard que lui-même reproduira cette même chose au 19 Bergasse dans son appartement. Freud était une espèce de sourd, enfin c'est quelqu'un qui n'entendait pas la musique, au deux sens du terme, entendre, qui ne comprenait pas la musique et qui n'aimait pas la musique. Et quand on sait que la musique c'était l'affaire de sa mère, Amalia, on considère effectivement que c'était le domaine réservé de la mère, donc il n'y avait pas de raison que d'autres soient musiciens ou mélomanes. Théorie du fils préféré, théorie du roman familial, théorie de la rivalité, qui sont des théories qui sont mises en œuvre dans les cabinets des psychanalystes où à chaque fois on fait fonctionner le concept de roman familial, on fait fonctionner le concept de fils préféré, on fait fonctionner également le concept de rivalité. Et voyez comment tout ça a un terreau éminemment biographique. Je renvoie là à un tout petit texte qui s'appelle « De la sexualité féminine », un texte de 1931. On aura l'occasion de revenir sur ce petit texte majeur, puisqu'il est fondateur, d'une certaine manière, de ce que j'appellerais la misogynie ontologique de Freud, qui considère que la norme, c'est un homme, et que quand on s'arrête en route, eh bien, on est une femme ou un homosexuel, mais que la norme voudrait qu'on devienne un jour un homme, et que finalement, la femme, c'est un homme auquel il manque un pénis. Ne riez pas, c'est la théorie, mais on la développera très précisément dans la constitution de la féminité ou du féminin quand on abordera cette question. Il théorise donc sur la jalousie envers d'autres personnes, frères et sœurs et rivaux. C'est l'expression qu'il utilise, hein, jalousie envers d'autres personnes, frères et sœurs et rivaux. Vous avez, en 1897 déjà, le 3 octobre, un petit mot qui nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent. Il avait accueilli, nous dit-il, la naissance de Julius, son petit frère, citation, vous voyez les guillemets, c'est Freud qui parle, avec de méchants souhaits et une véritable jalousie enfantine. Parce qu'elle menaçait, c'est arrivé, elle le menaçait de voir l'affection de sa mère moindre auprès de lui. Donc il est dans une logique de jalousie. Le petit garçon, le petit frère meurt, et il nous explique que le désir de mort d'un enfant qui finit par mourir, qui d'une certaine manière nous donne raison, est générateur ou généalogique de la culpabilité. Lui nous dit qu'effectivement, quand son frère est mort, il n'a pas caché sa satisfaction. Il l'écrit clairement à Fliss. Donc, quand Sigmund perd son frère Julius, il nous dit qu'il n'est pas mécontent du fait que ça arrive. À l'enterrement du petit frère, sa mère est déjà enceinte d'Anna qui va venir. Dans le livre, le petit texte dont je vous ai aussi parlé, Un souvenir d'enfance de Poésie et Vérité, il reprend cette image-là, et on a déjà eu l'occasion d'en dire deux mots, sur cet enfant qui brise la vaisselle, qui casse la vaisselle et qui, entraîné par des gens qui sont là, continue à casser la vaisselle. Et toujours en vertu du principe de la pensée symbolique qui suppose qu'une chose n'est jamais une chose mais autre chose, eh bien une assiette n'est pas une assiette. Dans la logique de Freud, il faut bien que l'assiette soit quelque chose d'autre, analogone, comme on dit dans la phénoménologie, c'est-à-dire l'équivalent symbolique. L'assiette, elle est l'équivalent symbolique du petit frère. Il s'agit, quand vous brisez la vaisselle, nous dit-il, d'exprimer, alors citation, exprimer avec force son souhait d'éliminer l'intrus perturbateur. Donc c'est vraiment l'obsession de Freud, cette aventure. On est par-delà le bien et le mal. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien, si c'est mal, s'il faut, s'il ne faut pas, s'il aurait fallu, s'il n'aurait pas fallu. On constate simplement que c'est une aventure autobiographique, que Freud ressent ces choses-là, qu'il est placé dans ce milieu-là, dans cette ambiance-là, et que placé dans ce milieu, dans cette ambiance, il réagit de cette manière-là, et réagissant de cette manière-là, il théorise les concepts ou les grands concepts de la psychanalyse. On consacrera évidemment une longue séance à la question de l'inconscient, et vous verrez que l'inconscient est tout autant postulé que ne le sont les concepts dont je vous ai parlé tout à l'heure, roman familial, théorie du fils préféré ou théorie de la rivalité. La relation qu'il entretient avec sa mère, il nous le dit d'ailleurs très précisément, et d'autres même le diront par la suite, Jones, qui est son biographe, et je vous ai dit que cette biographie était une hagiographie, c'est-à-dire un éloge insensé de Freud, Jones nous le dit lui-même, il y a quand même un problème entre Freud et sa mère. Et Freud fait savoir de fait que beaucoup de choses se nouent dans la relation avec sa mère. Je propose cette idée qu'effectivement, une mère qui considère que son fils est la huitième merveille du monde ne peut être qu'une mère qu'on va adorer puisqu'elle nous renvoie de nous une image plaisante, l'image la plus intéressante puisqu'on est le plus beau, le plus génial, le plus conforme à l'idée qu'on se fait de soi-même et que théoriquement le narcissisme fonctionne toujours très bien. Donc quelqu'un qui vous dit que vous êtes génial, vous ne pouvez que l'aimer. Et parce que quand vous aimez quelqu'un qui vous dit que vous êtes génial, c'est vous-même que vous aimez. Et soit, la plupart du temps, c'est le premier objet de nos désirs, de nos fantasmes ou de nos plaisirs. Donc, cette mère qui l'adore, il va l'adorer à son tour parce qu'elle a fabriqué une image du fils à laquelle le fils consent. Moi, je vous ai déjà dit ma préférence pour la psychanalyse existentielle, déjà, au cours de ces années. Et cette idée de Sartre qui me paraît extrêmement intéressante, quand Sartre nous dit que nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Et ça me paraît nettement plus intéressant que de tout rabattre sur la question du complexe d'Édipe. Et je pense qu'on a là, dans cette proposition que je vous fais, quelque chose comme une psychanalyse existentielle d'un Freud qui a été transformé par sa mère en huitième merveille du monde et qui a consenti à cette proposition de sa mère en voulant faire de telle sorte qu'elle ait raison, lui donner raison par amour et devenir lui-même la fameuse huitième merveille du monde présentée par sa mère depuis le plus jeune âge. En même temps, il y a une ambiguïté, une ambivalence avec sa mère. Il l'adore, mais il la craint, il la met à distance. Il y a plein de moments dans l'œuvre où on découvre ces choses-là, c'est-à-dire quand Lou Salomé, par exemple, lui demande des nouvelles de sa mère, eh bien, il donne des nouvelles de sa femme. C'est assez singulier de voir que la réponse se fait comme ça. Je renvoie au chapitre sur les actes manqués, sur les oublis des noms propres, enfin, sur toutes ces choses-là. Si on vous pose une question sur votre mère et que vous donnez des nouvelles de votre femme, à l'évidence, quelque chose se joue dans la réponse que vous faites ou que vous ne faites pas. Il y a une visite rituelle chez lui aussi qui est extrêmement intéressante, d'où l'intérêt de croiser biographie, correspondance et œuvre. Tous les dimanches, Freud va rendre visite à sa mère avec un membre de la famille, petit garçon, petite fille, enfin, il vient toujours accompagner. Et il rentre toujours de cette visite avec des problèmes intestinaux. Et c'est constant. Dans toute son existence, il y a toute une... Si vous avez envie de faire une thèse de proctologie, il y a du boulot. Sur Freud, sur le stade anal, sur la question de ses matières fécales. Un jour c'est dur, un jour c'est mou, un jour il a mal au ventre, etc. Enfin, il a peur d'avoir un cancer du rectum, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est obsédé par son intestin. Il nous dit que, évidemment, à chaque fois, il y a des raisons qui ne sont pas des raisons psychanalytiques. C'est assez intéressant parce que Freud voit de la sexualité partout. Voit du père, voit de la mère, voit du sexe partout. Mais lui, quand il a des problèmes intestinaux et qu'il rentre de chez sa mère, c'est simplement qu'il a trop mangé la veille. Ou qu'il a mangé du mauvais pain. Ça peut être une causalité à l'évidence. Mais on peut aussi imaginer que le psychosomatisme aidant, Freud n'est pas l'inventeur du psychosomatisme, mais le psychosomatisme aidant, effectivement, il y a quelque chose qui se joue dans cette aventure. Parce que quand Freud a ses problèmes de ventre, ces problèmes d'intestin, ces problèmes intestinaux, il faut se rappeler du premier rêve qui renvoie au coffre, au ventre, à ce qu'on a dans le ventre. Et l'idée que Freud puisse avoir dans le ventre quelque chose qui pourrait être un équivalent symbolique de ce que sa mère avait dans son ventre, le petit frère qui est mort, la petite sœur Anna qui va devenir le nom de sa propre fille, et puis ses propres problèmes intestinaux, vont générer chez lui une théorie des matières fécales que je vous propose. Il faut bien qu'on s'amuse un peu. Et elle est tout à fait singulière. C'est-à-dire qu'il faut lire et relire cette idée que chez Freud, autre théorie, hein, l'argent, ce serait des matières fécales. Pour la pensée symbolique. Donc si vous avez de l'argent, ce sont des matières fécales. Si vous avez des matières fécales, c'est de l'argent. On retrouvera cette chose extrêmement intéressante de l'équivalence entre matière fécale et argent dans la question du paiement de la cure. Ce qui se passe avec l'argent, pourquoi est-ce qu'il faut toujours payer? Pourquoi est-ce qu'une psychanalyse ne peut pas être gratuite? Pourquoi est-ce qu'il faut donner de l'argent? Pourquoi est-ce que l'idéal, c'est l'argent, j'allais dire, liquide? C'est le cas de le dire. Ça n'a évidemment rien à voir avec la fiscalité, bien sûr. On peut pas... Le problème n'est pas que ça échappe aux impôts, c'est une raison trop triviale. Mais vous aurez une raison vraiment théorique, et cette raison théorique, elle s'incarne dans un petit texte que je vous invite à lire, ça vaut son pesant d'or, « Caractère et érotisme anal », 1908, et puis un autre petit texte sur les transpositions pulsionnelles, en particulier de l'érotique anal, 1916-1917. Pour ce faire, je vais vous expliquer rapidement, parce qu'on pourrait passer vraiment une séance entière sur la question des stades, mais la théorie des stades que Freud nous propose en nous disant, voilà, entre de la naissance jusqu'à une dizaine d'années, voilà comment ça se passe sexuellement pour tout le monde. Il y a un développement qui est un développement prototypique. La théorie des stades, elle ne marche pas pour Freud, elle marche pour tout le monde, nous dit Freud, et chacun se reconnaîtra dans les moments que je vais vous décrire. On passe donc successivement du stade oral au stade sadicanal, au stade génital, au stade phallique, période de latence, et puis on arrive à l'adolescence et au moment d'adulte. Le stade oral correspond à la première année, nous dit Freud, c'est le moment où l'activité cannibale est essentielle, c'est-à-dire que l'activité n'est jamais séparée de la nutrition. On verra aussi le rôle que joue la succion ou la tétée. Freud nous dit que c'est essentiel parce qu'effectivement c'est ce qui nous relie au monde, c'est la question du plasma germinatif, je vous reparlerai de ça, c'est la question du refoulé du corps chez Freud, mais il nous dit qu'il y a effectivement dans cette logique de la nutrition quelque chose d'essentiel, le monde entier nous passe par la bouche dans des moments comme cela. Le plaisir, c'est l'ingestion. d'où donc les plaisirs à sucer ou à téter le sein de la mère ou à porter à sa bouche tout ce que vous mettez dans la main d'un enfant. Donc la zone érogène, c'est-à-dire la zone sur laquelle se concentre le plaisir, nous dit Freud, c'est bouche, lèvres et muqueuse. On passe au stade sadique-anal, qui lui est à peu près visible chez tous les enfants entre l'âge de 2 et de 3 ans. La zone érogène, c'est le sphincter, c'est-à-dire ce muscle qui contrôle la maîtrise des matières fécales. La rétention et l'expulsion, elle se fait avec ce muscle qu'il s'agit d'éduquer d'une certaine manière. Il faut qu'il nous obéisse pour qu'on puisse contenir, retenir, donner les matières fécales au moment où l'on voudra. C'est le moment, nous dit-il, où l'on découvre qu'on peut dire oui ou non. Et vous voyez avec les enfants qui disent non à toutes les questions qu'on pose, il y a toujours la question embarrassante. Vous dites n'importe quoi, ils vous répondent non, et vous dites bah, dis-moi non. Et là, il est embêté parce que s'il dit non, il dit oui tout en disant non. Donc c'est toujours un jeu qu'on peut jouer avec les enfants à ce moment-là. Mais de fait, il y a un moment dans l'existence où on découvre le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est le pouvoir de retenir ou de libérer, nous dit Freud, hein, toujours, hein, les matières fécales. Dès lors, l'excrément, nous dit-il, acquiert une valeur d'échange. Les parents l'attendent. Donc on peut donner ou ne pas donner. Cette période-là, c'est une période essentielle, parce que cette matière extraite du corps, c'est un morceau du corps avec lequel nous pouvons jouer, dit Freud, toujours Freud. Hein. Stade sadique anal, entre 2 et 3 ans. Entre 3 et 5 ans, on accède au stade phallique. C'est une évolution qui est théoriquement normale, elle est sur le papier. On verra aussi que Freud nous dit qu'il est dans le conceptuel et que parfois il donne des métaphores spatiales. On pourrait même imaginer que la métaphore chronologique est l'une des modalités des métaphores spatiales et que quand on nous dit tel âge, eh bien c'est comme quand il nous dit inconscient, préconscient, conscient ou ça, moi, sur moi, par exemple. C'est-à-dire qu'il invente des images qui sont susceptibles d'aider à penser. Proposition que Freud fait et que la plupart du temps on oublie. Il nous dit que ce sont des propositions métaphoriques ou allégoriques. Dans une lettre à Binswanger, il dit « mais c'est l'inconscient est une allégorie, nous prenons ça pour une vérité ». On tâchera de voir toute l'importance qu'il faut donner à cette phrase-là. Le stade phallique, donc entre 3 et 5 ans, c'est la topique normale de la libido, nous dit Freud. C'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la zone érogène, elle n'est plus dans la bouche, comme dans le premier stade, ou dans le sphincter, comme dans le deuxième stade, mais la zone érogène, c'est l'organe sexuel. La sexualité devient intersubjective, c'est-à-dire qu'on a le souci de l'autre, du moins qu'on intègre l'autre dans son plaisir sexuel. On n'est plus dans une relation de soi à soi. Et on découvre à ce moment-là les rôles du père et de la mère dans la sexualité. Souvenez-vous, je vous disais que c'était aussi le moment constitutif du roman familial, quand on découvre effectivement que le père joue un rôle, que la mère joue un autre rôle, et que ces rôles-là sont susceptibles de nous permettre de comprendre ce qu'est l'activité de reproduction. Donc on passe à ce moment-là par le complexe d'Édipe, ça je vais en dire deux mots tout à l'heure, et puis pour le garçon, angoisse de castration, et pour la fille, désir du pénis. C'est-à-dire le petit garçon découvrant disons-le comme ça, le sexe de la petite fille, considère qu'elle n'a pas de sexe. C'est ce que nous dit Freud. Et Freud nous dit que la punition, vous verrez, ça renvoie toujours à l'inceste, hein, la punition, c'est d'être comme les filles, c'est-à-dire de voir son sexe disparaître. Angoisse de castration. Et quant aux petites filles, évidemment, comme il leur manque quelque chose, elles sont dans le désir du pénis. Et on verra que le désir du pénis chez Freud est constitutif d'un moment qu'il faut dépasser, qui est susceptible d'être dépassé, complexe d'Édipe, complexe d'Électre, on aura l'occasion d'en reparler. C'est le moment de la mise en place du surmoi. Le surmoi est une instance morale qui nous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'est la loi, ce qu'est le droit, ce que sont les interdits. Donc c'est à ce moment-là que ça se constitue. Et puis vous avez ensuite une période de latence entre 6 et 11 ans. Dans un autre petit texte, enfin caractère et érotisme anal, il ne nous dit pas 6 ans mais 4 ans, enfin, bon, c'est pas forcément déterminant, on peut imaginer que c'est pas à l'âge de ces 6 ans que les choses se passent, mais enfin dans ces zones-là, disons-le pour donner raison à Freud, on arrive donc à une période de latence, parce qu'il y a le complexe d'Édipe qui génère un refoulement. Donc refoulement de toute sexualité. À partir de ce moment-là, nous dit Freud, on n'a pas de souci du tout de la sexualité. Je vous rappelle, entre 6 et 11 ans. Moi, je témoigne, c'était pas vrai. Il nous dit, c'est le temps du dénigrement du sexe opposé. On dit, ah, les filles, ah, les garçons, etc. Moi, c'est pareil, je vous témoigne que c'était pas le cas. On intègre les interdits, naissance de la sublimation, c'est-à-dire vous avez un désir, il est socialement inacceptable. Eh bien, ce désir socialement inacceptable, vous allez pouvoir lui trouver une forme socialement acceptable. Et cette forme socialement acceptable, eh bien, on appelle ça la sublimation. Là aussi, on développera. C'est la théorie de l'art chez Freud. Freud considère que l'art, c'est la sublimation. C'est-à-dire qu'un artiste c'est quelqu'un qui sublime des pulsions sexuelles qui sinon ne trouveraient pas d'issue, ne trouveraient pas de logique de développement correcte. Donc c'est le moment où on découvre la sublimation, 6-11 ans. C'est le temps de la puberté, modification des corps à l'évidence, trouble de l'identité sexuelle une fois encore. Et puis, moment important dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, c'est le moment où il explique, et ça on peut imaginer que ça puisse faire du bruit au début du XXe siècle, où il nous explique que la bisexualité est constitutive de l'être de chacun, c'est-à-dire il n'y a pas les garçons et les filles, même si ça existe évidemment d'un point de vue anatomique, il nous dit même l'anatomie c'est le destin, nous dit Freud. Mais il y a du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin, nous dit Freud. Donc il y a une constitution bisexuelle et nous nous adressons différemment à la part de l'autre sexe en nous. Dans la constitution de notre identité sexuelle, le petit garçon doit faire quelque chose de sa part féminine et la petite fille doit faire quelque chose de sa part masculine. Et des choses se jouent dans ces périodes-là parce que la bisexualité, c'est le moment de l'incertitude. On est un garçon et on a des désirs de fille. On est une fille et on a des désirs de garçon. Parfois, ça va jusqu'à l'usage du travestissement. Un petit garçon qui s'habille en fille ou une fille qui s'habille en petit garçon. Et on découvre aussi à ce moment-là des moments d'homosexualité. Freud nous dit, voilà, l'homosexuel, elle peut être ponctuelle, d'occasion, momentanée. Alors évidemment, la prison, la guerre, l'éducation, quand vous vous retrouvez à Sparte dans des endroits où il n'y a que des hommes parce que les femmes sont dans un coin où on les laisse faire la cuisine, la vaisselle, le ménage et où les hommes sont dans la logique guerrière, etc. Freud nous dit donc qu'il y a des homosexualités d'occasion et il y a des homosexualités d'occasion dans les moments constitutifs de cette période-là, la période de latence. C'est aussi, et tous ceux qui ont eu des enfants ados le savent, la période de la rébellion contre la société, la morale, la religion, l'ordre social. Et Freud, quand il nous a donné ce tableau de l'évolution des stades, il nous dit, eh bien voilà, tout ça se passe normalement, sauf que nous faisons tous plus ou moins des fixations sur certains stades, au moment de certains stades. Parfois, c'est parce que la période aura été trop heureuse ou elle aura été trop frustrante. Parfois, on aura sevré trop tôt. Et on ne sait pas qu'on aura commis des malheurs ou qu'on aura commis quelque chose qui va s'avérer être un déterminisme complet sur ce que nous deviendrons. Ce que nous sommes, dit Freud, c'est là que la négation du libre arbitre est grande chez lui, Freud nous dit ce que nous le sommes parce qu'il y a eu dans notre existence un développement de la psyché, un développement de la libido et parfois des choses interfèrent avec le développement de la libido et parfois vous ne savez pas pourquoi vous êtes, ben par exemple, comptable ou collectionneur de timbres, mais je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et vous allez voir, ça a à voir avec le caractère anal. Retenez-vous, je ne suis pas dans la morale, mais ce sont les explications que donne Freud. Fixation, par exemple, sur le stade oral. Donc on est dans la première année, je vous disais, la zone érogène c'est la bouche, on porte tout à la bouche, on est dans la logique de la succion, de la tétée, on associe le plaisir à la nourriture qui elle-même est survie. Il y a des beaux textes, il y a des belles pages de Rousseau d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse dans l'Émile où Rousseau nous dit qu'on n'imagine pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui crie parce qu'il a faim. On se dit, bon, il crie, il a faim, d'accord, mais Rousseau nous dit qu'il faut imaginer la même angoisse ou la même peur ou la même crainte que l'angoisse de la mort de quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans l'heure qui suit. Et Rousseau nous dit que ce qui se passe dans le cri de l'enfant qui a faim est quelque chose qu'il faut entendre. C'est révolutionnaire, hein, en 1762, de considérer que l'enfant a une âme, qu'il est susceptible d'être entendu et que ce qu'il dit est important et qu'il est même constitutif de son être. Donc on peut imaginer qu'un enfant qui aura été négligé dans un moment d'angoisse où il aura eu faim, par exemple, il aura demandé la tétée ou à manger et qu'on aura attendu, tardé, ou qu'on n'aura pas entendu ou qu'on aura fait autre chose en se disant que ça pouvait se trouver différé de quelques minutes parce que on fonctionne avec notre raison raisonnable et résonante, la psyché de l'enfant peut considérer qu'il en va d'une espèce d'abandon total de l'enfant. Donc il y a là une espèce de traumatisme, nous dit Freud, qui va donner par la suite des gens dont le plaisir se trouvera sur la bouche, sur les lèvres, avec la langue, ce qui fait que vous pouvez devenir une cantatrice, par exemple, ou vous pouvez devenir un buveur, un fumeur. Vous avez du plaisir quand vous fumez avec la bouche, la lèvre, avec les lèvres, avec les muqueuses. Le plaisir que vous pouvez avoir avec la bouche est un plaisir qui renvoie à une fixation sur le stade oral. Vous pouvez devenir évidemment un cuisinier, vous pouvez devenir un œnologue, vous pouvez devenir un spécialiste des havanes. Enfin, dès que vous avez des activités et qui suppose la polarisation du plaisir sur la bouche et les activités buccales, les zones érogènes qui ont à voir avec les muqueuses buccales, alors on peut dire, dans la logique freudienne, que vous aurez connu un certain type de traumatisme au moment de votre stade oral, c'est-à-dire dans la première année de votre existence. Si vous êtes dans la période du stade anal, même chose, on peut imaginer des parents qui, parce que vous êtes sur le pot et qui sont là en train de considérer que vous êtes la huitième merveille du monde, ils peuvent vous applaudir, vous accompagner, vas-y, pousse mon petit garçon, je t'en prie, encore, plus fort, vas-y, etc. Et on est très content, ouais, super, et puis montre la crotte, on est content, c'est bien dans le centre du pot, c'est extraordinaire. Et effectivement, donc quand vous faites ces choses-là, ça paraît banal, mais vous l'avez tous fait, et on nous l'a tous fait. Il y a eu un moment où, effectivement, on a triomphé en amenant son petit caca dans son pot et où les parents ont réagi. Alors, comment ont-ils réagi? Certains, on peut dire, ouais, bon, ça va, je suis en train de regarder un match de foot, ça suffit. Ou d'autres ont dit, oh là là, quelle belle chose, c'est fantastique, viens que je te fasse un bisou, c'est extraordinaire, t'es un grand garçon maintenant. Parce que il se joue des choses, nous dit Freud, dans la réception qu'auront les parents de tel ou tel événement, maîtrise des sphincters ou l'inverse. C'est-à-dire, vous aurez fait votre performance et vous aurez tout mis dans le mille du petit pot. Et puis le soir, vous lâcherez tout dans le lit et le lendemain matin, c'est à refaire, quoi. Donc évidemment, les parents peuvent dire, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des ratés. Ou peuvent dire, quoi, moi qui croyais que t'étais un grand garçon, t'es pas un grand garçon, finalement, tout est à refaire, etc. Imaginez que les réactions qui peuvent paraître banales, qui peuvent paraître extrêmement simples pour des parents, parce qu'on a travaillé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est énervé, parce qu'on a la tête ailleurs ou je ne sais quoi, on dit quelque chose qui nous paraît sans conséquence. Et ça peut être, nous dit Freud, et je pense que là-dessus il a raison, ça peut être déterminant pour ce que nous deviendrons dans l'existence par la suite. Alors, si vous avez, par exemple, traumatisé quelqu'un au moment du stade anal, eh bien, nous dit Freud, vous aurez, par exemple, quelqu'un qui deviendra comptable. Moi, j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique, j'avais des élèves comptables. Et je leur ai expliqué pourquoi, s'ils étaient là, par exemple, en BTS compta ou en terminale à faire de la comptabilité, c'est que probablement, il y avait quelque chose à voir avec leur matière fécale. Ça les étonnait un peu, mais je dis, pour moi qui l'ai dit, c'est Freud, donc vous pouvez être un avare, vous connaissez des gens comme ça, c'est des gens qui donnent, mais sans donner tout en donnant, ou qui vous font des cadeaux de Noël qui ne coûtent pas cher, des trucs, vous avez encore la petite étiquette en solde, deux fois en solde, trois fois en solde, et c'est resté au dos, tu dis, ah ben celui-là, effectivement, ou enfin bon, l'avarice, vous savez comment elle fonctionne. Les collectionneurs, nous dit Freud, sont des gens qui ont des problèmes avec leur stade anal. Et puis les gens qui sont d'une extrême propreté ou d'une extrême saleté. Vous en connaissez, des crasseux répugnants, qui se lavent jamais, qui puent, qui sont sales, etc. Ou des gens qui systématiquement prennent trois douches par jour, ont du savon liquide dans leur poche, et puis sont toujours en train de, dans l'obsession de ce genre de jeu. Je passe rapidement là-dessus, simplement pour vous donner des exemples sur la théorie freudienne des stades et cette idée que les traumatismes sont constitutifs d'une personnalité et que ces traumatismes-là ont à voir avec un certain type d'intersubjectivité entre le petit garçon, la petite fille, et les parents. Voilà pourquoi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais Freud dit dans un petit texte qu'il y a trois choses impossibles à faire, éduquer, psychanalyser et gouverner. Et il n'a pas tort. Parce que si vous avez lu Freud, ça devient une terreur. Dès que le pot de chambre arrive, vous dites, il faut dire quoi, il faut faire quoi, trop, pas trop, alors est-ce que je ne suis pas dans le trop, est-ce que je ne suis pas dans le trop peu, comment est-ce que j'aurais fait, et puis vous êtes dans le doute, et le doute ne faut pas non plus. Enfin, donc effectivement, ça peut être terrorisant aussi, ce genre de proposition. Je vous propose, on a pris du retard avec ces histoires de caca qui envahissent tout, là. Donc je propose que peut-être on laisse Lady pour la fois prochaine, et parce que j'aimerais quand même finir sur une petite biographie anale de Freud, parce que quand on regarde comment ça fonctionne chez lui, cette histoire du complexe identificatoire entre matière fécale et excréments, on s'aperçoit que s'il a raison, si les dates sont bonnes, si on fait fonctionner le schéma universel sur la vie particulière de Sigmund Freud, eh bien, le stade anal chez Freud, on est dans les logiques du moment où sa mère attend Anna. Je vous ai dit tout à l'heure que donc tout ça était compliqué, que Freud pensait qu'effectivement sa mère pouvait être enceinte de son propre demi-frère, mais que le père était trop vieux pour être le père de cet enfant. Freud considère qu'effectivement sa mère a un gros ventre, puis qu'elle disparaît, et puis que quand elle réapparaît, elle apparaît svelte et mince, dit Freud. Pendant ce temps-là, il associe la disparition de sa mère, qui part avec un gros ventre et qui revient avec un ventre plat, au fait que la nounou a été coffrée. mise dans un coffre, et que donc mise dans un coffre par Philippe, qui lui aurait été le dénonciateur, du moins ce qu'on pense aujourd'hui, le dénonciateur ou le découvreur des forfaits de la nourrice en question, eh bien on a une espèce d'assimilation chez Freud entre la maternité, le ventre, les matières fécales, la névrose, et cette idée qu'effectivement, toute son existence, il sera poursuivi par cette aventure que jamais il ne voudra mettre en perspective avec ses propres concepts. C'est-à-dire que quand il est dans la logique du cigare et qu'il nous dit « fumer, c'est étouiller le sein de la mère » et on retrouve une logique phallique et hop, on a une analyse absolument freudienne, Freud qui fumait une vingtaine de cigares par jour n'a jamais considéré que cette analyse fonctionnait pour lui. Lui disait, quand on lui disait « ah ah, phallus », etc., et Freud disait « mais parfois un cigare n'est qu'un cigare ». Il avait raison, mais il avait tort sur pas mal d'autres moments où il pensait qu'un cigare, c'était autre chose qu'un cigare. Eh bien là, il en va de même avec cette histoire des matières fécales, de l'identification matière fécale et or. C'est-à-dire, il va chercher dans les contes, dans les légendes, dans le folklore. Il est dans une lecture de l'excrément du diable pour nous expliquer que depuis toujours, quand le diable chie de la merde, c'est l'expression qu'il utilise, il est dans le vocabulaire scatologique, c'est de l'or. Et il nous dit, mais regardez, dans tous les contes, vous verrez, vous avez des diables chieurs de ducats ou chieurs de deniers. C'est-à-dire que quand ils exècrent leur matière fécale, eh bien, ils donnent de l'or. Donc Freud dit, ben voilà, c'est une vieille chose, c'est une histoire ancienne. Donc à chaque fois que vous avez des matières fécales, vous avez de l'or. Vous avez une matière précieuse. Et puis, évidemment, quand on est dans ce genre de logique, il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand on découvre un jour que le surnom qu'Amalie a donné à son propre fils, c'était Sigi en or. Sigi, c'est l'abréviation de Sigismund, puisqu'à l'époque, Freud s'appelle Sigismund. C'est plus tard qu'il décidera de s'appeler Sigmund. Mais le Sigi en or, c'était le signe que sa mère utilisait pour faire savoir qu'elle aimait son fils, qu'il était adoré, qu'il était vénéré, qu'il était le fils préféré. Il nous dit, Freud, dans ce petit texte dont je vous parlais tout à l'heure, sur le caractère anal, hein, « L'argent est placé dans les relations les plus intimes avec la merde. » C'est son expression, c'est sa phrase, c'est son mot, c'est la citation donnée par Freud lui-même. Les fixations sur le stade anal, si on est dans cette logique freudienne, hein, et qu'on persiste à croire ce que je crois, puisque c'est ma thèse, comme vous le savez, que Freud n'est jamais que dans l'auto-légitimation ou dans l'auto-justification, on voit bien que les fameuses fixations sur le stade anal en général donnent en particulier des individus, citation, là, c'est Freud qui parle, ordonnés, économes et entêtés. Et ce sont exactement trois qualités qu'on trouve chez Freud, qui ne manquait pas d'ordre, mais beaucoup d'argent, et qui était également entêté. Donc on peut imaginer que cette théorie, comme toujours chez Freud, pas totalement fausse, pas totalement vraie, mais toujours absolument autobiographique, eh bien, elle suppose que nous puissions la penser comme une pensée de la singularité, comme une pensée de la subjectivité, pas forcément comme une pensée de l'universel. J'arrêterai là pour ce soir, simplement parce que je pense que le complexe d'Édipe mérite que peut-être on ne le bâcle pas, c'est le cas de le dire, ça mérite quand même qu'on s'y attarde un peu plus longuement, donc je me suis attardé sur le pot, vous m'en excuserez, mais la fois prochaine, je vous dirai ce que sont les mécanismes du complexe d'Édipe. Voilà, merci beaucoup. Alors, cette théorie des stades, elle est à plusieurs endroits de l'œuvre, mais l'endroit le plus clair, le plus simple, et c'est à mon avis, le plus grand livre de Freud, « Trois essais sur la théorie de la sexualité », vous trouverez dans ce petit ouvrage, « Trois essais sur la théorie de la sexualité », un exposé de ce que sont les stades, de ce qu'est la logique du développement libidinal. Vous avez vu que je m'étais emmêlé les pieds dans la question de la famille de Freud, des dates et toutes ces choses-là. Il y a un livre de Gabriel Rubin, qui est très simple et qui est très bien fait, qui s'appelle « Le roman familial de Freud » chez Payot, et qui explique toutes les complications de cette famille recomposée dans laquelle trois générations cohabitent. Et effectivement, on peut imaginer que dans une famille comme celle de Freud, les trois générations ne font qu'une identité, qui était une espèce de labyrinthe dans laquelle il a des difficultés à se mouvoir. Un livre factuel, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'hypothèse non plus, mais enfin, c'est de Gérard Badou qui s'appelle Madame Freud et qui raconte comment cette dame a été extrêmement dévouée. auprès de son mari, fiancée extrêmement adorée par un Freud qui n'était pas près d'elle, à Paris, chez Charcot, et comment il a fantasmé sur cette femme-là, comment il a eu des enfants, comment, après avoir eu des enfants, il a renoncé à la sexualité avec elle. Et puis, un livre important, enfin, qui a fait date dans l'histoire de la psychanalyse, mais qui est aussi un moment dans la construction de la légende de Freud, de Didier Anzieux, l'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse. Ce sont deux gros volumes, enfin deux volumes qui font un livre de 1000 pages, dans lesquels volumes, donc on accrédite, enfin Didier Anzieux accrédite la thèse de Jones, qui est aussi la thèse de Freud, pour les besoins d'une hagiographie personnelle. Et puis tous les petits textes dont je vous ai parlé de cette fameuse collection de l'œuvre complète qui fait 22 volumes, plus un avec glossaire et index. Ce sont des textes qu'on ne trouve pas forcément en édition séparée. Par exemple, des souvenirs couvertures, ça vous le trouvez dans le tome 3. L'interprétation du rêve, tome 4, alors ça vous l'avez eu dans une traduction précédente qui s'appelait La science des rêves, qui était aux presses universitaires de France. Trois essais sur la théorie de la sexualité, sur la théorie de la vie sexuelle, parce que c'est pareil, on a changé les traductions. Tome 6, là, de l'édition, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je travaille sur celle-ci. Le roman familial des névrosés, ça vous ne le trouvez que dans l'œuvre complète, tome 8. Caractère et érotisme anal, dans le même volume. Un souvenir d'enfance de poésie et vérité, tome 15. Des transpositions de pulsions, en particulier dans l'érotisme anal, tome 15 aussi. Et puis de la sexualité féminine, tome 19. Pourquoi ai-je travaillé sur cette édition-là ? Parce que les gens qui aujourd'hui défendent bec et ongles la psychanalyse considèrent qu'il faut parler l'allemand, ce qui n'est pas mon cas, qu'il faut le comprendre, qu'il faut lire dans le texte, et qu'il y a toujours des erreurs d'interprétation et que les traducteurs sont toujours des traîtres. Donc, je me suis dit, prenons l'édition faite par les psychanalystes officiels. On ne pourra pas me reprocher d'avoir travaillé sur une édition qui sera homogène. Et de fait, c'est une édition homogène avec une équipe complète. Le directeur de la publication, c'était Bourguignon et Côté, et puis le directeur scientifique, c'est Jean Laplanche, qui est un grand psychanalyste. Donc, j'ai travaillé sur ces traductions-là, pour qu'on ne puisse pas faire de procès sur les interprétations, sur le vocabulaire, sur le mot qu'il ne faudrait pas traduire comme ceci, mais plutôt comme cela, etc. Voilà pourquoi je renvoie à cette édition. Voilà.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Michael Migne. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, une vie sous le signe d'Œdipe.